Good Morning Business. Le débat.
Et oui, sur les taux longs, on a presque effacé une année de hausse. C'est vertigineux. En deux mois, si on prend juste l'OAT, on est quasiment sur une baisse d'un point, 2,60. On est sur des plus bas depuis mi-janvier. Juste, on ne se souvient plus, hein, 3,55 le 18 octobre.
Oui, absolument.
C'est quand même absolument dingue, Nicolas Dose.
C'est époustouflant, surtout que c'est un peu comme le pétrole insensible au Proche-Orient. Les taux longs qui prennent une direction que personne n'avait anticipé à ce point-là. Alors, j'y vois trois explications. La première, c'est un peu le syndrome de la manif. Vous avez 10 mecs qui courent et puis il y en a 100 qui se mettent à courir, mais 80, mais 90, ils savent pas pourquoi. Tout le monde court, alors on court. Et les marchés ont la foi. Ils ont la foi depuis que Jérôme Powell a laissé imaginer qu'il y avait des baisses de taux qui allaient arriver aux États-Unis. Ça y est, c'est fini. Alors, le pic est atteint.
Des baisses de taux courts. Hein.
Des baisses de taux directeurs des banques centrales. Ça y est, les Américains vont y aller. Mais même la BCE va y aller, c'est sûr. Pourtant, la BCE a clairement dit le sujet n'a pas été évoqué lors de la dernière réunion.
Ouais.
C'est même pas, on en a parlé, mais c'est pas d'actualité. C'est pas été évoqué.
Alors qu'à la Fed, ils en ont parlé.
Voilà, la Fed, ils en ont parlé. Et ils ont même d'ailleurs chiffré à 75 points de base, a priori, la baisse 2024. Alors, ils s'imaginent que ça va être plus rapide que prévu. Que ça va être aux États-Unis comme en Europe est plus fort que prévu. Alors, certains vous disent, vous allez voir, en fait, ça va être 140 points de base de baisse de taux aux États-Unis. Bon. Les marchés ont la foi. Après, les marchés ont des yeux. Ils regardent, on leur a donné là l'indice des prix à la consommation de novembre pour la zone euro, 2,4. Mais les 2%, la fameuse cible là, on est à côté. C'est bon ça, on y est. Puis regardez, on a eu les PMI flash qui ont confirmé une ralentissement de l'activité du secteur privé, plus forte que prévu au mois de décembre, et notamment pour la France. Alors attendez, si l'activité ralentit et que l'inflation est pas si loin que ça de la cible des banquiers centraux, ben, la Banque centrale, elle va pas précipiter une récession, elle va évidemment donner du mou, mettre un peu d'eau chaude, et elle va donc évidemment assouplir sa politique monétaire parce que l'activité ralentit. Et puis après, ben, les marchés ont l'habitude, j'ai envie de dire, et puis ils aiment pas l'incertitude, donc ils partent du principe que s'il y a un ralentissement économique, eh ben, il y aura le réflexe traditionnel de la valeur refuge et qu'on va mettre son argent à l'abri avec des obligations d'État. Résultat, effectivement, on a perdu 100 points de base en quelques semaines sur l'OAT, 130 points de base sur le 10 ans italien.
Bon, alors le rôle des marchés en même temps, c'est d'anticiper. Est-ce qu'ils anticipent bien, Jean-Marc Daniel ?
Oui, je crois que, en fait, sur un marché, il y a l'offre et la demande. Ce qui s'est passé l'été dernier, quand même, il y avait une offre qui était surabondante, parce qu'un certain nombre de pays, pour des raisons de change d'ailleurs, mettaient des obligations sur le marché. Ce que je veux dire par là, c'est que le Japon, pour stabiliser son taux de change, a mis pas mal d'obligations sur le marché.
Donc, il mettait de la dette sur le marché.
Donc, il y avait effectivement une sorte de concurrence entre tous les gens qui géraient de la dette, et donc effectivement.
Donc, ça faisait baisser le prix de la dette et donc
monter les taux d'intérêt. Donc, ça faisait monter les taux d'intérêt. Donc, il y a ce facteur qui a joué. La Chine aussi a joué le même facteur et la Russie a joué le même. Donc, vous avez vu quand même cette année et chose qui était sur le marché et qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs sur l'émission. C'est-à-dire, vous avez deux éléments sur la dette. Vous avez le marché au jour le jour où il y a la dette qui existait déjà et puis il y a la dette qui apparaît et qui est mise. Et elle, la volatilité sur le taux d'intérêt à l'émission était moins forte. Donc, ça, c'est un peu derrière nous. Hein. On peut considérer que la situation s'est stabilisée. Donc, on retrouve les fondamentaux. Quel est le véritable taux d'intérêt? Et donc, le taux d'intérêt, normalement, ça, c'est de l'économie...
Pour les nuls,
le taux d'intérêt...
Je crois connaître la réponse.
C'est le taux de croissance anticipé plus une prime de risque. Ouais. Donc, vous le voyez très bien. Si vous regardez en Europe, par exemple, eh bien, le taux de croissance anticipé de la zone euro, y compris avec l'inflation à 2%, c'est entre 3 et 3,5%. Donc, les taux d'intérêt doivent se caler là-dessus avec des primes de risque qui sont des primes de risque qui varient d'un pays à l'autre. La Grèce, maintenant, sur le marché, la dette grecque a un taux d'intérêt à 3,1%, alors que la dette italienne est à 3,7%. Donc, on considère désormais que le risque n'est plus porté par les PIG des années 2010, mais est porté notamment par l'Italie. Donc, il y a une petite prime de risque. Avec des taux d'intérêt qui sont effectivement en dessous de 3%, ça veut dire quand même que le marché anticipe non seulement une baisse significative de l'inflation, mais surtout une croissance potentielle très faible. Oui. Et donc, c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'effectivement, maintenant, on va avoir une capacité de nouveau de se relancer dans un investissement avec des niveaux taux d'intérêt qui sont tout à fait supportables. Mais c'est une mauvaise nouvelle parce que ça signifie concrètement que les opérateurs de marché sont convaincus que non seulement on va vers un ralentissement significatif de la croissance, mais que la croissance de long terme elle-même est largement amputée. C'est-à-dire qu'avec 1% de croissance potentielle en zone euro, et quand vous regardez aux États-Unis, les taux d'intérêt sont plus élevés parce que la croissance potentielle américaine anticipée est plus importante, vous avez quand même là aussi une croissance potentielle américaine aux alentours de 2%.
Mais pardon, je continue dans l'économie pour les nuls, moi je comprends pas, parce que Nicolas n'a pas les mêmes mêmes arguments. Il dit que c'est parce qu'il y a une anticipation des baisses des taux courts des banques centrales.
Oui, ça c'est...
Lié d'ailleurs à...
Non. En fait, en réalité, quand vous regardez la stratégie monétaire, n'impacte pas directement, n'a pas de conséquences directes sur les taux longs.
Ah oui.
Le taux long d'équilibre... En revanche, effectivement, quand vous avez une contradiction très forte entre la politique monétaire et l'évolution des taux longs, qui se traduit par le fait que les taux courts sont supérieurs aux taux longs, vous avez inversion de la courbe des taux, à ce moment-là, c'est signe de, là aussi, de menace récessive. Et donc, les banques centrales, elles vont être obligées de s'adapter et de baisser leur taux d'intérêt, parce que le marché est en train de leur dire que, un, sur l'inflation, vous allez trop loin, deux, sur la croissance potentielle, vous êtes à côté de la plaque.
C'est les marchés qui font un peu pression sur les banques centrales.
En ce moment, c'est pas les marchés qui disent aux banques centrales, on a compris ce que vous allez faire, c'est les marchés qui disent aux banques centrales, vous êtes en train de faire n'importe quoi.
Ouais. Après, ça tombe bien, on a plein de dettes à émettre.
Oui, absolument.
On est le premier émetteur depuis 2024.
Voilà. À 2,60, c'est quand même mieux que 3,80.
Ah, parce que.
Ma bonne dame.
J'ai plus en tête le chiffre.
Parce que 2,60, encore une fois, c'est le taux de marché. Il faut regarder à l'émission comment ça va se passer. À l'émission, on était monté quand même à 3.
Alors, il y a pas mal de secteurs de l'économie qui arrivent à lever de l'argent. Tout à l'heure, à 6h45, on était avec un invité qui arrivait à faire rentrer un fonds et qui était valorisé 750 millions d'euros dans la transformation numérique digitale et l'IA. Là, on a encore trouvé un invité qui lève beaucoup d'argent.
C'est un ancien élève de Jean-Marc Daniel.
Absolument. Il était bien formé.
Voilà où ça mène.
J'ai discuté avec lui dans le couloir. Il a un mot magique pour lever de l'argent. Vous allez voir.
Il y a décarbonation.
Comment vous savez?
Il y a intelligence artificielle.
Allez, IDEX, c'est notre invité.
Et bonne formation.
C'est vrai?
Un bon professeur.
Benjamin Frémaux, c'est votre élève. À tout de suite.